Non, non, ça c'est toi. Hop. Bonjour à tous, ça fonctionne? Oui? Je m'entends pas, mais si vous m'entendez, c'est le principal. Est-ce que vous avez fait vos devoirs? Pour un prof, ça fait... Mathieu, Emmanuel, vous avez fait vos devoirs? Et non, ils sont pas... Parmi nous, est-ce que vous voulez vous lever? Juste, je voudrais qu'on les accueille. C'est un couple de... Ah ben, la famille. Couple de pasteurs de l'église de Montélimar. Donc, quand en général, on ferme l'église ici, vous faites partie des églises vers qui on envoie. Donc, n'hésitez pas à aller les visiter. Maintenant, vous avez vu, ils ont l'air hyper sympas, hyper gentils, et ils le sont. Donc, n'hésitez pas à aller visiter cette belle église à Montélimar, qui a un impact incroyable dans la ville dans laquelle ils sont installés. Je voudrais commencer par prier. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, du coup, au chapitre 2. Ah, il y en a au moins un qui a fait ses devoirs. De l'évangile de Jean. Donc, on va suivre l'évangile de Jean jusqu'à fin janvier, entrecoupé de plein de choses, comme le week-end prochain. Donc, les devoirs seront reportés au dimanche, en fait, 15 jours après. Mais on va essayer de vous tenir au courant. Jean chapitre 2. Père, merci pour ta parole, merci pour ce cadeau merveilleux que tu nous as fait, Seigneur. Elle est cette lampe qu'on doit tenir allumée, Seigneur, dans nos vies, pour savoir où nous allons, pour savoir comment nous comporter. Et puis pour être rempli de tout ce que tu as à nous donner, Seigneur, jour après jour. Merci pour cette grâce immense. Et je te prie que ce matin, elle nous fasse du bien, Seigneur. Que ta parole vienne toucher nos cœurs et transformer nos vies. Amen. Alors, comme il n'y a pas beaucoup qui ont fait leur devoir, ça tombe bien, j'ai prévu qu'on lise le chapitre. Mais par morceaux. On va commencer au verset 1 jusqu'au verset 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit: « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur: Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Et il lui dit: Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors on continuera la suite du chapitre après. Nous sommes invités ici à regarder une fête, un mariage, mais sous un angle particulier. En tout cas, en nous posant au moins une question. Est-ce que ce récit qu'on vient de lire se centre sur le mariage ou sur autre chose? Si c'est sur le mariage, c'est assez curieux. Pourquoi? Ben, elle est où la mariée? Et l'époux? Il fait une brève apparition et hop, on ne sait pas trop qui ils sont. Le récit reste muet sur les personnages principaux. Il est difficile alors, je crois, de croire que Jean en écrivant ce texte, voulait nous parler du mariage qui a eu lieu à Cana. Au lieu de cela, il va se centrer sur ce qui se passe dans un petit coin de la fête, à l'ombre des regards. Et au verset 11, à la fin du récit, il va nous dire qui est le personnage principal de cette histoire. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. C'est donc de Jésus dont Jean voulait nous parler. Alors regardons ce personnage principal. Marie fait un constat, d'accord ? Il n'y a plus de vin. Et vient le dire à Jésus. Et là, le verset 4, enfin je ne sais pas pour vous, mais il est très bizarre. Jésus répond, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Et la réponse de Marie, elle est tout autant surprenante. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » On a vraiment l'impression d'assister à deux personnes qui ne s'entendent pas et qui parlent. Il est raisonnable, je crois, de penser ici que Jean n'a pas voulu rapporter l'entièreté des échanges entre Jésus et Marie. D'accord ? Sinon, ça ressemble vraiment à un dialogue de sourds. Mais il s'est focalisé sur ce qui lui paraissait important. Revenons donc aux paroles de Jésus. Au verset 4, Jésus dit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Dans un meilleur français, les traducteurs auraient dû traduire « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Mais dans le grec, il est bien écrit « Quoi, moi et toi, femme ?» Jésus se place donc en premier. Avant de débuter son ministère, Jean nous rapporte que c'est son premier miracle ou son premier signe. Et dès le début, Jésus rappelle qui il est. Alors, on a lu le chapitre 1 la semaine dernière, et on peut facilement rapprocher ce début du chapitre 2 avec le début du chapitre 1. Au commencement est la parole, et au commencement cité deux fois au début du chapitre 1. Le ministère de Jésus démarre, et Jésus se positionne en tant que Dieu. Jésus marque une distance entre lui et Marie, et nous pouvons rapidement en déduire que c'est entre lui et l'humanité tout entière qu'il met une distance. En effet, dès le début, Jésus nous rappelle que lui, il est de nature divine et qu'elle n'a rien à voir. Elle n'a rien de comparable avec la nature humaine. Avec cette remarque « Quoi, moi et toi ?», Jésus nous dit clairement dès le début qu'il n'est pas venu en tant qu'homme pour suivre et obéir aux hommes. Le seul à qui il obéit, c'est Dieu le Père. Et clairement, Jésus nous dit qu'il vient faire la volonté de son Père. Peut-être ne l'oublions pas quand nous prions et quand nous adressons des requêtes à Dieu. Jésus n'a pas pour objectif de combler nos désirs et de répondre à ce que l'humanité veut. Ce n'est pas son objectif premier. Dès le commencement, Jésus est avec Dieu. D'accord, Jean chapitre 1. Et il partage complètement la volonté de Dieu. Et quand Jésus dit, par exemple, en Matthieu 20, au verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Je crois qu'il faut entendre, premièrement, que Jésus est venu servir la volonté de Dieu et non pas l'humanité. Quoi ? Moi et toi. Puis il ajoute, « Mon heure n'est pas encore venue. » Mais de quoi tu nous parles, Jésus ? Marie vient de te demander qu'il n'y a plus de vin. De quoi est-ce que tu es en train de nous parler ? Quand on regarde au vin dans la Bible, eh bien, on va trouver plusieurs choses. Et on va trouver qu'il participe notamment à quatre choses principales. Alors, on va lire un peu des versets en dehors de l'évangile de Jean. Et une des choses à laquelle le vin participe, c'est à la joie. Psaume 104, 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Bien sûr, il y a d'autres versets, Juge 9, 13, Ecclésiaste 10, 19. Le vin est le symbole ou participe à la joie. Une deuxième chose, c'est qu'il participe au sacrifice de purification. Genèse 49, 10, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, alors on peut l'assimiler apparemment au Messie, et que les peuples lui obéissent, il attache à la vigne son âne et au meilleur cep, le petit de son ânesse, il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. C'est encore une fois une image de la purification liée au sacrifice. Ou alors en Exode 29, 40, « Tu offriras avec le premier agneau un dixième d'épha de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de hin de vin. » Le vin, et on trouve pas mal de versets dans Nombre, dans Lévitique, participe au sacrifice. Une autre chose que la Bible dit sur le vin, c'est que quand il est mélangé, quand il est mêlé, il symbolise alors le péché qui entache le cœur de l'homme. Psaume 23, 30, on peut changer là, voilà. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mélangé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Le vin mêlé symbolise aussi le péché et les cœurs tortueux de l'homme. Et enfin, il va symboliser le jugement de Dieu sur le péché et sur les pécheurs. Psaume 75, 7 ou 8 suivant les versions. « Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse tous les méchants de la terre, sucent, boivent jusqu'à la lie. » Ou Apocalypse 16, 19. « Et la grande ville fut divisée en trois parties et les villes des nations tombèrent. » Et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. D'après la suite du chapitre 2, c'est très probablement, très vraisemblablement de ce vin qui symbolise ces choses dont Jésus veut parler. Ce vin qui revêt ces quatre aspects, la joie. Je vous ai perdu. Pardon ? C'est écrit la purification, le péché et le jugement de Dieu. Jésus est venu sur terre pour endurer la colère de Dieu face au péché. Il va offrir son sang pour le pardon des péchés. Un vin non mêlé, un vin pur, en sacrifice définitif, une fois pour toutes. En échange, il va nous donner la joie du salut. Cette joie qui démarre avec le vin nouveau déversé sur chaque chrétien. Ce vin qui procure une joie durable, jour après jour, année après année et jusque dans l'éternité. Grâce à Jésus, le vin ne manquera plus jamais. Et comme le dit le psalmiste, le bonheur, incluant donc la joie et la grâce, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le vin ne viendra plus à manquer. Cet épisode du début du chapitre est en quelque sorte simplement un résumé de ce que Jésus va Jean va révéler sur Jésus dans la suite du chapitre. Alors, bien sûr qu'on ne va pas s'arrêter sur chaque verset, sinon on y est jusqu'à demain matin. Donc, on va continuer et on va passer au verset 12. C'est bon ? Vous êtes toujours avec moi ? Oui ? Verset 12 à 16. « Après cela, il descendit à Capernaum, avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes... » Oh oh ! On n'a pas souvent cette image-là de Jésus, hein ? Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Nous voyons ici Jésus qui se met en colère. Mais contre quoi est-il vraiment énervé ? J'ai embêté ma chérie hier avec ça. D'après vous, contre quoi est-il vraiment énervé ? Est-ce qu'il est énervé parce qu'il y a des animaux et parce qu'on s'occupe de pourvoir aux animaux au temple ? Peut-être pas. Il était coutume pour la fête de Pâques que des sacrifices soient offerts à Dieu dans le temple de Jérusalem. D'accord ? Vous me suivez ? Certaines personnes venaient de loin, d'Afrique, d'Asie, d'Europe, et même s'ils venaient juste d'Israël, Israël, ce n'est pas 2 km², d'accord ? Même si ce n'est pas immense, ça pourrait être la distance de Perpignan à Valence. À peu près. Non, mais c'est pour qu'on puisse se représenter, d'accord ? Sauf qu'il n'y avait pas des trains où on pouvait charger ces animaux et se dire « Allez, on y va !» Les vendeurs étaient là pour permettre à ces personnes de pouvoir acheter un animal et de pouvoir réaliser un sacrifice. On pourrait dire en fait qu'ils rendaient bien service. Alors d'où vient la colère de Jésus ? Jésus dispersa la monnaie des changeurs. Et on parle de maison de trafic. Et en Matthieu 21:13, Jésus va dire « Vous faites une caverne de voleurs. » Le problème est que le rituel sacrificiel était devenu un moyen pour certains de gagner beaucoup d'argent. Ceux qui venaient de loin devaient premièrement échanger leur monnaie, d'accord, dans la monnaie locale, le shekel, et devaient payer un prix exorbitant pour cela. Le taux d'échange était devenu énorme au temple. En plus de cela, il était facile, ils étaient en lien avec les vendeurs d'animaux, et il était facile de considérer un animal comme étant non recevable, non approuvé. Vous savez que dans la loi juive, il fallait que les animaux soient sans tache, etc., avec un certain nombre de critères. Il était donc facile de dire « Ah, regardez là, il y a 3 poils qui sont marrons, donc non, nous n'acceptons pas cet animal en sacrifice. » Et la vente des animaux était aussi à un prix exorbitant. Du coup, ça faisait quoi ? Eh bien, tout simplement, les Juifs pieux qui avaient fait un long voyage, qui avaient déjà dépensé énormément d'argent pour pouvoir se rendre au temple et pour pouvoir offrir à Dieu un sacrifice, qu'il soit d'action de grâce ou qu'il soit pour le pardon, qui sont venus réclamer miséricorde pour leur vie, et bien probablement que certains se retrouvaient dans l'incapacité de pouvoir le faire. Et imaginez-vous les pauvres, ceux qui n'avaient pas d'argent, comment devaient-ils faire? Eh bien, ils ne pouvaient pas venir demander pardon à Dieu. C'est pourquoi la colère de Jésus face à cette injustice était très largement justifiée. D'accord? C'est pour ça que le texte nous dit qu'il prend les cordes et qu'il tisse lui-même son fouet. Ce n'était pas une colère impulsive, c'était une colère réfléchie, j'ai envie de dire. Gardons cela en mémoire. D'une manière générale, en tant que chrétien, nous sommes appelés à être en paix avec tout le monde. Vous êtes d'accord avec cela? Mais face à de l'injustice, ou du moins un trop d'injustice, nous sommes appelés, comme Jésus, à nouer un fouet et à le prendre, et à ne pas hésiter à ruer dans les brancards pour ramener une forme de justice. Nous ne sommes pas appelés à rester cachés ou discrets en toutes circonstances. Que ce soit face à de petites injustices parfois, et parfois nous avons affaire à de grandes injustices. Rappelons-nous le combat de Martin Luther King, par exemple, aux États-Unis. D'accord ? Face à cette injustice sur le peuple noir. Quelle horreur ! Et pourtant, un homme de foi s'est levé et s'est dressé contre une et des nations pour rétablir la justice. Rappelons-nous que le vin de la colère de Dieu viendra juger tous les actes des hommes et des femmes. Et nos comportements ont une importance. Nos comportements, même si nous vivons sous la grâce, ont une importance. Recherchons à pratiquer ce qui est juste selon Dieu, même si cela parfois doit nous coûter. Vous êtes d'accord? Laissons-nous réveiller parfois dans notre christianisme. Oui, nous sommes appelés à être doux. Mais oui, nous sommes aussi parfois appelés à nouer le fouet et à nous en servir. Et combien ce monde est en train de dériver vers toujours plus d'injustice. Qui va se lever? Qui va se lever? Jésus en tout cas. On passe au verset 17. 17 à 22. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Donc, Jésus est toujours dans le temple. Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Dès le début de son récit, parce qu'on est encore au début, on est au chapitre 2, Jean veut poser les bases du ministère de Jésus. Jésus est venu accomplir le dessein de Dieu et offrir sa vie pour le salut de beaucoup et pour accomplir les promesses de Dieu. Jésus annonce ici que le vin de la colère de Dieu va tomber. Il va tomber sur lui. Et que le 3e jour, Dieu le ressuscitera. Merci pour ce témoignage. Je ne trouve pas Julien. Ah, il est là-bas. Merci pour ce témoignage, Julien. Parfois, nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire avec nos vies. Et nous avons été encouragés ce matin à être patients et persévérants dans la foi. Il aura fallu près de 3 années aux disciples pour comprendre ce que Jésus a dit dès le début de son ministère. 3 années, et il ne comprenait pas tout le long. Parfois, la compréhension ou la révélation de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies prend du temps. D'accord ? Ça, on ne le répétera jamais assez. On est dans un monde où on veut que tout aille vite, mais Dieu, lui, il a le temps. Il a le temps. Et ce n'est pas parce que nous sommes pressés que lui va se stresser. Les seuls qui se stressons, c'est nous. D'accord ? Lui, il est dans le repos et dans la paix. Il sait très bien où il nous emmène. Jésus annonce ici que le temple physique à Jérusalem aussi va être détruit et qu'un nouveau temple, son corps, va prendre place. 1 Corinthiens 3, 16, Paul nous dira « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et on va finir avec les derniers versets. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Là aussi, c'est un peu bizarre, hein ? Comme à la fin des noces de Cana, où il est dit que Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le chapitre 2 de l'évangile de Jean se termine par cette déclaration de Jean que Jésus est celui qui sonde les cœurs et connaît le cœur de l'homme. Qu'est-ce que Jean veut faire en mentionnant cela ? Ben, il est en train de nous présenter la divinité, la nature divine de Jésus. Pourquoi ? Parce que ça nous rappelle des textes, notamment on peut lire dans Jérémie 17, versets 9 à 10, « Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Réponse, « Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins. » pour traiter chacun conformément à sa conduite et aux fruits de ses agissements. Ou alors dans 1 Samuel 16, 7, En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, il est bien évident que Jean voulait montrer que Jésus est participant intégrant de la nature divine. Il connaît les cœurs. Et Dieu cherche en nous un cœur simple, un cœur honnête, qui aime la vérité. Jésus ne va pas rechercher une gloire humaine ou n'est pas intéressé par faire du chiffre. Jésus ne bâtit pas son église pour qu'il y ait un maximum de personnes sauvées. C'est un peu choquant. Jésus ne bâtit pas son église pour qu'il y ait un maximum de personnes sauvées. Au lieu de cela, il recherche et il appelle des personnes qui vont abandonner leur ancienne manière de vivre et renoncer à leur volonté égoïste, centrée sur soi, et qui vont rechercher sincèrement la volonté de Dieu pour leur vie. C'est cela que Jésus vient chercher. Et ce n'est pas parce que certains vont clamer haut et fort « Oui, Jésus, je t'aime et tu es le plus beau, le plus fort, etc. » que ce sont ceux que Jésus aura appelés et sauvés. On peut lire un texte similaire dans Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus sonde nos cœurs, frères et sœurs. Moi, je ne peux rien sonder du tout. D'accord ? Et aucun des responsables de cette Église. Vous seul, face à Dieu, pouvez développer un cœur honnête, un cœur sincère, un cœur qui cherche Dieu et sa volonté. Alors c'est à cela que je vous encourage. Moi, j'essaierai toujours de vous accueillir avec le sourire, avec tout mon amour. Mais sachez que Jésus sonde vos cœurs, comme il sonde le mien. Et qu'à lui, on ne peut pas la lui faire à l'envers. Ça fait du bien de l'entendre aussi. Il est Dieu. Et avant même que je ne parle, il connaît mon cœur. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur le chapitre 2 de l'Évangile de Jean. Bien sûr, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Mais retenons, Jésus est celui qui change l'eau en vin. Il a le pouvoir de transformer radicalement nos vies et changer la destinée de la mort et du jugement éternel que nous méritions en vie éternelle, en paix et en joie. Il a pris sur lui la colère de Dieu et son corps a été détruit. 3 jours après, il est ressuscité et il offre la vie éternelle à celui qui croit. C'est-à-dire celui qui recherche non sa propre volonté, mais celle du Père qui est dans les cieux. Amen. Comment savoir si je crois ? Qu'est-ce que je recherche dans ma vie ? Moi ou lui ? Si votre réponse, si votre élan du cœur premier, c'est lui, alors vous êtes à lui. Amen. Enfin, Dieu nous regarde. Dieu nous regarde. Il sonde nos cœurs et nos reins. Il attend que nous pratiquions la justice et que nous venions à lui d'un cœur sincère, honnête et joyeux. Car en échange de notre obéissance, il promet de déverser dans nos vies, jour après jour, rappelons-nous, il est lui l'époux qui ne manque jamais de vin. Il vient déverser un vin nouveau, celui qui nous remplit de la présence du Saint-Esprit et qui nous donne cette joie du salut qui est notre force. Amen. Je vais vous inviter à vous lever et on va prier ensemble. Père, nous voulons t'ouvrir nos cœurs. Parce que oui, tu le sondes, même si nous ne le voulons pas. Mais ce matin, nous voulons te dire que oui, nous voulons que tu sondes nos cœurs. Parce que nous t'aimons, parce que nous te faisons confiance. Parce que nous savons que ton regard sur tes enfants est bienveillant. Parce que tu es celui que nous voulons servir. Et parce que nous voulons aussi que notre volonté soit soumise à la tienne. Alors Père, viens continuer de transformer nos vies, de toucher nos cœurs, jusque dans les profondeurs de notre âme, Seigneur, pour que nous puissions agir pour ta cause, Seigneur, pour que nous puissions nous tenir debout, Seigneur, dans ce monde, face à l'injustice, quelle qu'elle soit, Seigneur, et pour que nous puissions annoncer que le salut est en Jésus-Christ, qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité et qu'il vit éternellement. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen.